France Culture.
Moi, j'ai vu la drogue arriver en Seine-Saint-Denis. C'était une forme de divertissement avant tout. On en prenait pour faire la fête. Voilà, le week-end. On en prenait aussi pour faire comme les autres. Et puis, c'était aussi une façon d'échapper à la grisaille des cités et à l'ennui. Parce que dans ces cités de banlieue, il n'y avait pas grand-chose à faire pour les jeunes. Rester avec les parents, les petits frères et sœurs, tout ça. Les jeunes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils descendaient, ils se retrouvaient dans le hall. Ou alors, ils allaient chez un copain qui habitait en pavillon et qui avait sa chambre, parce qu'il y a... Il y a des grandes zones pavillonnaires aussi, par ici. Et ils fumaient des joints, et ils se marraient, ils écoutaient de la musique ensemble.
Héroïne, le temps des seringues. Une série documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisée par Gilles Blanchard. Deuxième épisode, l'arrivée de la CAM en banlieue. À la fin des années 70, l'héroïne circule des milieux bourgeois aux milieux populaires. De nouveaux consommateurs apparaissent, originaires de la banlieue parisienne. Parmi eux, la première génération d'enfants d'immigrés maghrébins, nés ou ayant grandi en France, la découvre, sur fond de changements sociaux fondamentaux. Destruction des bidonvilles et début des cités. Désindustrialisation et fermeture des usines. Mais aussi, une furieuse envie de vivre pour ceux qui, ayant grandi en France, sont confrontés au racisme, comme leurs parents avant eux.
Cette rencontre avec l'héroïne, finalement, elle s'est faite sur le même mode que celle avec les autres produits.
Nelly Boulanger, actrice associative au Blanc-Ménil.
C'était pour un usage festif au départ. C'était en sniff essentiellement, mais bon, c'était pour ceux qui ont consommé de l'héroïne, un plaisir inégalable par rapport aux autres produits. Tous les usagers d'héroïne me racontaient la même chose, ça mettait dans un espèce de cocon, de bien-être extrême, qu'on était isolé de... Toutes les agressions, tous les problèmes extérieurs, mais aussi de son monde intérieur, de ses souffrances, de ses problèmes, de ses difficultés avec les parents, de ses engueulades avec un tel ou un tel, de ses échecs. C'était un produit qui était bien meilleur que tous les autres produits, et puis surtout qui donnait une envie très forte de recommencer.
Alors, je m'appelle Daniel, sinon mon nom d'artiste c'est Dynasty, donc ça s'écrit D2E, plus loin N-A-S-T-Y. Donc on m'appelle Dina, ou Daniel, bon, suivant les personnes. Voilà, je suis disque jockey, depuis fort longtemps, musicien au sens plus large. J'ai 64 ans et je continue à œuvrer, parce que j'ai encore des choses à dire et ça me plaît toujours autant. Alors j'ai grandi à Bagneux, cité de la Pierre Plate, qui s'appelait la cité des musiciens, parce qu'il n'y avait que des rues, rue Mozart, Square de Bussy, etc. Et après, maintenant, c'est devenu la cité silencieuse, parce que bon, c'était déjà la cité la plus chaude de France après Nanterre, enfin Bagneux en tant que tel. C'était pas encore Saint-Denis et tout ça. Donc j'ai grandi dans cet environnement et je suis parti de chez mes parents et de la cité à l'âge de 16 ans. Après, j'ai réussi à avoir mon petit studio. Voilà, donc je suis parisien depuis longtemps. Du coup, l'ambiance, on va dire qu'elle n'était pas encore glauque, mais qu'elle est devenue très rapidement, quand même Paris avait une espèce d'odeur de misère. Et puis après j'ai trouvé un taf de coursier pour une agence de voyage. De là j'ai rencontré d'autres coursiers et puis après je suis rentré dans une boîte de course à course où je gagnais mieux ma vie, mais il fallait travailler beaucoup plus, mais ça ne posait aucun problème. Et mon échappatoire, c'est que je mettais de l'argent de côté pour aller aux États-Unis. Alors l'héroïne, c'était dans le milieu de mon travail, dans la boîte de course. Donc moi je suis tombé dedans, mais gentiment au début. Et je trouvais ça génial parce que l'hiver il fait très froid. Donc 12 heures par jour sur un scooter au début de mobylette, ça fait que la journée passe tranquillou. On n'a pas froid, on est bien. Les courses s'enchaînent, on travaille bien. Ça maintient, contrairement à ce qu'on peut penser, dans l'action, ça maintient aussi réveillé. Donc je fais des allers-retours, j'en prends pendant quelques mois, puis après j'arrête, puis après je reprends, etc. Puis après je pars aux États-Unis. Donc c'était mon bain de soleil. Je ramenais des disques, je voyais autre chose, j'écoutais d'autres musiques et ça c'était formidable. Je rentre des États-Unis en 81. Pendant que je suis parti, on m'a tout dévalisé, je me retrouve à la rue, j'ai plus rien. J'ai même plus de scooter. Du coup, je fais le standard de la boîte de course, donc je fais dispatcher. Et là, je découvre tous mes collègues de la boîte de course, tous accros. J'ai un collègue dispatcher qui se prend des traces à longueur de journée. Il me dit, vas-y, partage. Et moi, je replonge dedans. Et je vois tous mes collègues, tous accros. C'est-à-dire que le dispatcher était obligé de s'organiser pour qu'il y ait toujours quelque chose le matin quand les gars arrivaient, pour que les gars qui passaient leur nuit en manque, ils puissent travailler. Et donc ça, on est en 80.
Hey mec, c'est Paris. Tu m'entends ?
Paris était une ville populaire, avec beaucoup de quartiers ouvriers, famille modeste, qui a été révolutionnée sous la direction du maire de Paris, Jacques Chirac, qui en a fait une ville beaucoup plus à la fois touristique, hébergeant des classes supérieures.
Fabrice Olivet, historien, Gagny.
Ça correspond tout à fait à cette grande crise de l'héroïne et surtout de la guerre contre l'héroïne. De fait, des quartiers entiers, le 14e arrondissement, l'île aux Chalons à Gare de Lyon, étaient occupés par des populations migrantes, notamment d'origine subsaharienne, donc des Noirs sénégalais, et se mettaient en place des structures de deal, de cannabis et d'héroïne, qui rendaient la vie absolument impossible pour qui n'était pas consommateur de drogue. Ils vendaient ouvertement de l'héroïne. Parler du 14e arrondissement que moi je connaissais bien, c'était à 50 mètres du commissariat. À 50 mètres du commissariat, je n'exagère pas.
Quartier de misère et de dérive, l'îlot Chalon à Paris près de la gare de Lyon, devenu un repère de trafiquants de drogue et de proxénètes, est maintenant le théâtre de règlements de comptes et de bagarres sanglantes. Un Algérien tué samedi, un jeune Français tué hier soir. Les opérations coup de poing de la police n'ont rien résolu et la situation ne fait qu'empirer dans ce quartier promis à la rénovation depuis 1928.
Tous des vendeurs de drogue. Vous voyez.
Des dealers plein la rue. L'îlot Chalon, près de la gare de Lyon, c'est la grande surface de la drogue à Paris. Hachiche, cocaïne et surtout héroïne, on y trouve tout et paraît-il moins cher qu'ailleurs.
L'îlot Chalon, aujourd'hui 15h. Nouvelle descente de police. Après la rafle d'hier, les trafiquants de drogue avaient repris dès le début de l'après-midi leur petit commerce, comme si de rien n'était. 4000 personnes vivent dans ce quartier abandonné et déshérité. Jusqu'à l'an dernier, plusieurs communautés, français d'origine, maghrébins, asiatiques, cohabitaient sans trop de problèmes. Depuis l'arrivée des dealers, la physionomie d'Île aux Chalons a changé. La délinquance, la violence s'y sont installées. Et la plupart des habitants vivent désormais dans la crainte.
Depuis vraiment 6 mois, c'est la drogue qui tend sans arrêt. On en a marre, on ne peut pas sortir. Je veux rentrer chez moi, je ne peux pas rentrer, ils sont là en train de se piquer. Non. C'est pas une vie, ça, c'est pas possible.
Et brusquement, la mairie de Paris a mis fin à tout ça en incarcérant tout le monde. Les habitants d'origine modeste relogés, plutôt en banlieue. Donc, une hypothèse est de dire que ça a servi pour qu'on se débarrasse des habitants. Et après, c'est la reconstruction où on fait de l'immeuble de prestige. Et donc, tous ces quartiers dont je parle, c'est l'îlot Chalon à Gare de Lyon, c'est le grand squat de la rue Raymond Losserand dans le 14e, sont devenus des quartiers prestigieux, des réalisations immobilières extrêmement coûteuses, avec des sociétés d'économie mixte qui ont fait beaucoup d'argent.
Et voilà, ce soir c'est fait, la police est venue, le quartier sera rasé, ce n'était prévu que depuis 60 ans après tout. Mais surtout, après la Goutte d'Or, après Belleville, après l'îlot Chalon, ils iront ailleurs. Car de la drogue, il y en aura. Et il y en aura tant que resteront ceux qu'il y a derrière, ceux qui les fournissent, les gros bonnets. Autant dire que la police n'a pas fini de courir.
Et est-ce que cette politique de démantèlement des zones où il y a du trafic de drogue va se poursuivre dans Paris ou ça va s'arrêter à l'îlot Chalon qui va être après rénové ?
Alors, les descentes ne s'arrêtent pas à l'îlot Chalon. On a plusieurs squats aussi dans les 19e et 20e arrondissements qui sont ciblés comme étant des lieux, donc évidemment d'abord d'habitat informel et donc illégal, mais aussi des lieux d'activité criminelle et de trafic de drogue.
Alexandre Marchand, historien.
Donc il va y avoir des interventions policières, mais c'est sûr que la plus médiatisée, la plus importante, c'est celle de l'îlot Chalon, où là le problème était carrément en plein jour, au vu de tout le monde. Mais le danger en fait de ces scènes ouvertes, c'est qu'on ne parle que d'elles et on ne voit pas derrière, ailleurs, la massification souterraine des usages de drogue. Et puis le problème aussi, c'est que l'îlot donc est démantelé, beaucoup de gens sont arrêtés, les immeubles sont vidés, et puis le quartier va être rasé, la rénovation urbaine va se faire, mais un grand nombre de dealers, de consommateurs qui avaient pris l'habitude de se fixer autour de l'îlot au début des années 80, ben vont partir ailleurs. Comme quand on tape dans une fourmilière, on écrase quelques fourmis, puis elles partent toutes ailleurs paniquées. On dissémine finalement le trafic.
Début des années 80, l'héroïne commence à se diffuser. Ça va être une diffusion massive, extrêmement forte, en particulier donc dans ces quartiers populaires.
Michel Kokoreff, sociologue.
Dans un contexte de montée du chômage, de désindustrialisation, de déstructuration des milieux populaires, de crise aussi, on pourrait dire, de l'identité culturelle, de ces enfants d'immigrés qui sont nés en France, mais qui sont perçus comme étrangers, bref, qui ont un peu le cul entre deux chaises. Bon. Alors, en sachant que quand même, les familles, bon... Ça n'a jamais été vraiment bien, hein, quand même, hein, parce qu'on ne va pas dire qu'il y a eu un âge d'or. Encore une fois, l'immigration, les bidonvilles, la guerre d'Algérie, les ratonnades, la police raciste, le début du chômage de masse, parce que dernier arrivé, premier parti, bon.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
En 81, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec une espèce de fenêtre d'espoir qui se referme très vite en 83, la mise en place de politiques libérales avec Jacques Delors. C'est aussi les premières rébellions urbaines dans la banlieue lyonnaise, du côté de Vénissieux, Villeurbanne, des rapports tendus entre ceux qu'on appelle à l'époque les jeunes immigrés et la police. Le racisme manifeste parce que la guerre d'Algérie n'est pas terminée pour tout le monde. Et puis peut-être sur un plan plus social, c'est les effets de la crise. C'est-à-dire qu'on commence à fermer les usines, commence à délocaliser, le chômage passe... la barre des 1 million, et il est certain que l'héroïne, l'arrivée de l'héroïne dans les familles, c'est un enfer, parce que les gens sont addicts, sont accros, ils sont accros, c'est pas une dépendance psychologique, c'est physique, donc il leur faut absolument leur produit, sinon ils sont malades comme des chiens, il leur faut donc cette nécessité de faire l'argent, mais d'autre part, il y a aussi le fait que les familles elles connaissent pas. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il a ? Mais pourquoi il est comme ça ? Mais bon. Alors, il y a une dame qui m'avait dit ça. Écoutez, c'est bien simple. Avant, on se voyait pour les baptêmes et les mariages. Et puis, est venu un jour, on ne s'est plus vu que pour des enterrements.
Je suis un monsieur de 63 ans qui est né... sur Nanterre, et donc il y a 2 mois après l'indépendance de l'Algérie, dans les bidonvilles de Nanterre, et qui réside toujours sur Nanterre.
Rabat, habitant de Nanterre.
Voilà, on était en bord de Seine. En fait, les bidonvilles, c'était toujours en bord de Seine, en bordure de voies ferrées, c'était toujours à l'extérieur de la ville, on va dire. Et c'était beau, la ville était belle. Pourquoi elle était belle ? Parce qu'on était jeunes. On était tout petits, c'était notre monde, on était dans notre monde. Et puis on est né dans, on a grandi dans, Et puis pour nous, c'était notre monde, en fait. On était là, et puis on était heureux parce qu'on était inconscients. C'est-à-dire c'est les parents qui trimaient à ce moment-là.
Entre 1962, date de votre naissance, et 82, vous avez déménagé.
Oui, et ben le bidonville a été détruit, donc il a fallu aller quelque part. Donc on nous a déplacés dans une cité, c'est là qu'on a grandi, qu'on s'est débrouillé comme on a pu.
Et la vie en cité, elle était différente de la vie du bidonville ?
Oui, c'était différent. On est arrivé dans une cité, alors il y avait 183 appartements, nous étions 9 familles maghrébines, on était en minorité. Ça nous a fait la misère. Il y avait des milices. Il y avait des milices encore le soir. On sortait dehors, on était ados encore, même pas après. Oui, ados. Et le soir après le film, on descend, on fume même pas la cigarette. On était juste là pour se raconter le film. On était ados, les pères de famille. Pourtant, on avait des copains européens qui étaient avec nous, qui descendaient avec des matraques, qui nous regardaient. Donc voilà. Mais ça, c'est pareil, hein, c'était normal, je veux dire.
Le racisme à l'époque était comme ça. C'est normal.
Ah oui, oui. Mais bon, on faisait même pas attention, quoi. Passait avec les matraques, nous... bon, on les cherchait pas, on les regardait pas dans les yeux, c'est tout, on cherchait pas, on était là, ils nous connaissaient très bien, donc voilà. Ils faisaient la ronde avec les chiens de la cité, de... Bon, enfin, c'était normal.
Début 82, vous entendez parler de l'héroïne.
Oui.
Comment ?
Par les gars qui commencent à circuler, à aller sur Paris, à bouger, à... Moi, je dis, tout est parti de discothèque, hein, et ça, je lâcherai pas jusqu'à la fin.
Qui passe, people, qui passe, hitman.
C'est parti de discothèque, on était interdit partout. Alors, tenue exigée, alors la fois d'après, on revient avec la tenue exigée. On venait pas en basket, je veux dire Nike ou chaussures, la veste, la chemise. Et après, quand on est en tenue exigée, c'était faut être accompagné. Donc, il y avait toujours quelque chose, il n'y a rien à faire, on ne laissait pas rentrer. C'est là que ça commençait ce qu'on appelait le Kiss Club.
Qu'est-ce que c'est le Kiss Club ?
Le Kiss Club, c'est une discothèque. Le Kiss Club. Et là. Le Kiss Club accueille les Arabes, quoi.
Voilà, c'était où ? Vous vous souvenez ?
À Strasbourg-Saint-Denis.
C'est une boîte où les Lascars, ces jeunes de milieu populaire, d'ascendance immigrée, se retrouvent pour aller voilà, danser sur les morceaux de James Brown et de Marvin Gaye. Mais c'est aussi un lieu où voilà, les entrepreneurs du monde de la drogue se retrouvent éventuellement poursuivre leurs affaires, en amorce d'autres. Et c'est devenu une sorte un peu de lieu mythique pour toutes ces raisons-là, quoi. Très prisé par une certaine jeunesse et aussi par voilà, des gens qui sont plutôt dans les marges.
Pour rentrer dans une boîte à l'époque, sur 10 fois, même disons sur 20 fois, on rentrait une fois, avec du mal. On n'était pas bienvenu.
Au Kiss Club, moi, jamais j'ai été refusé, on a toujours rentré. C'est la seule boîte qu'on pouvait rentrer au Kiss Club, parce que les videurs, c'était des rebeux, ils me laissaient rentrer. Et même en survêtement, je rentrais. Kiss Club, tout le monde rentrait, il n'y avait pas.
Ahmed Emissoum, ancien consommateur, Nanterre. Et ça passait quel genre de musique au Kiss Club ?
Que de la soupe. Barry White, James Bond, tout ça, avec Cassé et tout ça, que de la soul. Mais que maintenant, qui a servi vintage. Vous ne connaissez même pas Barry White, ni James, ni Carson, James Bond, Curtis Mayfield, ils ne connaissaient même pas. C'est celui qu'on a ramené. Tout ça,
quand je l'entends, j'ai des frissons aujourd'hui.
Et donc, à cette époque, on s'habille comment quand on va sortir à Paris ?
J'ai mon casin. Un Louis, c'est un jean Louis, ça nous serrait en bas, une chemise, un blouson en général, et une petite chaîne en or. Putain, tu t'entends Yam quand il chante.
Chaîne en or qui brille.
Ouais, et les pas, c'est ça. Exactement, tu écoutes Yam, tu retombes dans les années 70 et 80. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. C'est exactement ça quand j'entends Yam, ça me fait rappeler les boîtes. On était tous typés. Quand t'en voyais un, tu les voyais tous pareil. Hein.
La chanson Je danse le Mia.
Ouais, voilà. Ah, la chaîne en or.
En long comme ça, on fait ça. Hein. Tac, tac, tac. S'il n'y avait pas trop de drogue, il y avait un peu de gym, trop de drogue. Il y a beaucoup d'alcool.
Après, il y a eu un autre club, le Pacifique, qui est ouvert à la Défense.
Ça ressemble au Kiss Club.
Le patron, c'était Martin, avec ses deux barman. Là-bas, il y avait tous les mecs du quartier. Et là-bas, tu rentrais comme tu voulais. Le mercredi, c'était pour les mineurs. La majorité, c'est les mecs du quartier là-bas. On dansait avec la petite chaîne et tout. Oh putain, c'était la bonne époque. Ah, Pacifique.
Donc la diffusion, elle a été massive. Ça, je pense que dans tous les milieux, voilà, y compris pour des personnes de façon improbable, il y a eu un contact, il y a eu une consommation. Alors éventuellement qui n'a pas eu de suite, mais vraiment ça a pénétré énormément des milieux très 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 divers. Ce que je vois d'un point de vue démographique, c'est que les familles qui sont arrivées en France, qui se sont les fratries qui sont nées dans les années 60, encore en partie dans les bidonvilles d'ailleurs, en particulier dans les Hauts-de-Seine, mais pas que dans les Hauts-de-Seine, ils arrivent à la majorité au début des années 80, donc ils sont dans la force de l'âge, ils veulent croquer la vie, ils veulent effectivement consommer et du James Brown, et du Kiss Club, et de l'héros comme les autres, et sans doute que y a quand même un effet de crise. Une crise structurelle, une crise économique, une crise sociale, pas de boulot, un refus de la condition ouvrière, parce que j'ai pas envie d'être comme mon père, tout cassé par le travail. En même temps, situation d'échec scolaire au moment où l'école devient un opérateur de sélection sociale, alors qu'avant on pouvait très bien rentrer sans diplôme et accéder à des positions sociales élevées. Donc une partie de cette jeunesse, mais je dirais pas exclusivement les jeunes maghrébins, dans cette espèce de tenaille entre l'absence de perspectives professionnelles et l'échec scolaire, trouve dans la rue, dans des activités, un mode de vie déviant, dans le business, une sorte de perspective, je dirais même une sorte de stratégie de réussite sociale. I like cash. Cash. I like cash.
Cash. I like cash. Yo. L'héroïne a envahi le marché. Un usager me racontait que un jour, lui, il allait acheter chez son dealer de l'herbe ou du shit, et puis un jour, son dealer lui a dit « j'en ai pas, mais j'ai de l'héro si tu veux essayer ». Et puis, à cette époque-là,
Nelly Boulanger,
les risques de dépendance étaient méconnus. Les usagers en consommaient pas forcément tous les jours, mais à une période d'inactivité, ou alors... s'ils avaient une petite difficulté, ils se mettaient à consommer comme ça tous les jours, pendant une semaine. Puis un matin, ils se réveillaient, ils avaient mal partout, mal dans les articulations, mal au ventre, pas bien, pensaient qu'ils étaient malades, grippés. Et puis c'est un autre usager qui disait, non, tu vois, ça c'est le manque.
Je sais même pas pourquoi je l'ai fait la première fois. Je crois qu'au début, on cherche à se donner un coup de fouet. J'ai cru que ça n'engageait à rien d'essayer, mais j'ai essayé. Et j'ai continué, sans arrêt. Un jour que j'allais chez Louis, il n'a pas répondu. J'ai cru devenir enragé jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Ah, j'étais malin. J'ai failli en claquer. Quand c'est à ce point-là, autant en crever. J'avais un poids d'au moins 20 kilos sur ma poitrine. Et le seul moyen de ne pas être écrasé, c'est d'aller se faire faire une piqûre.
On était loin, nous aussi, de s'imaginer la dépendance à l'héroïne, parce qu'on connaissait la dépendance à l'alcool qui met des décennies, quelquefois, avant d'arriver. Mais on s'imaginait pas que ça rendait dépendant comme ça, si vite. À l'époque, quand même, les usagers d'héroïne n'étaient pas exclus. Il n'y avait pas l'exclusion sociale qu'il y a eu par la suite. C'est-à-dire que dans les groupes d'amis, ils étaient encore présents. On savait qu'ils consommaient de l'héroïne, pas nous, mais ça ne nous gênait pas. Et on savait même pas qu'ils étaient dépendants. Donc, ils étaient dans les groupes d'amis, ils cachaient leur consommation
à la famille, bien souvent. C'était assez facile. Puis, c'est vrai que après 2 ou 3 ans de consommation toxicomaniaque, déjà, souvent, ils avaient été obligés de passer à l'injection. Parce que l'héroïne, c'était un produit qui coûtait plus cher que les autres. À peu près, à l'époque, c'était 100 francs la dose. Mais quand il fallait mettre 100 ou 200 francs tous les jours, c'était... Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Fallait voler. Donc, il se retrouvait parfois en prison.
Il faut que je te couvre. T'as pas un peu l'oseille, Molly ? J'ai besoin de quelques dollars. 10 dollars, ça irait. Je les rendrai dans quelques jours. Même 5, ça pourrait aller. 5, ça serait parfait. Je t'en prie. Molly, je suis si malade. Ça me fait mal partout. Je me sens si mal. Ne dis pas non. Je t'en prie, ne dis pas non. Je t'en supplie, Molly, je t'en supplie.
Ne viens pas me demander de t'aider. Si tu as envie de te suicider, planque-toi sous le métro.
Il me faut une piqûre.
Non.
File-moi 5 dollars. Ou 3, ou même 2. Mais presse-toi, je t'en prie.
Tu vas cesser de te détruire avec
oui,
ce poison.
Je sais, c'est ce que je me dis, Molly. Je te promets. Mais maintenant, il me faut une piqûre, rien qu'une piqûre. J'ai trop mal, Molly. Et ensuite, je te promets, jamais recommencer. Rien que 2 ou 3 dollars, Molly. Je t'en prie.
Je m'appelle Asdine, donc je suis retraité. J'ai commencé par faire de l'animation bénévolement dans une MJC avec des enfants migrants. Et en même temps, j'ai fait une maîtrise de sociaux. Et quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait un mémoire sur sport en fonction de la classe sociale. Donc, si on pratique la boxe, d'où on vient? Et si on pratique le tennis, d'où on vient, etc., etc. Ça a donné un mémoire. Donc, quand j'ai fini ça, je me suis dit, il fallait bien que je travaille, que je gagne ma vie.
Azedine Zorbi, ancien éducateur, Orly.
Donc, je suis retourné pour faire un DUT carrière sociale. Option animation socioculturelle. Et à ma sortie, j'ai été embauché dans un club de prévention sur Orly. En fait, ils m'ont embauché du fait que je connaissais un petit peu l'environnement et les jeunes qui gravitaient, les grands frères des enfants que j'ai eus avant. Donc, j'ai eu ce rôle d'éducateur spé. Pourquoi on me les a refusés, à mon avis, bon, mauvais calcul ou bon calcul, c'est qu'ils étaient majoritairement d'origine maghrébine. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'effectivement, c'était une période où il y avait de l'héroïne partout, dans tous les quartiers. Toutes les cités d'Orly étaient touchées. Et il est vrai que dans ces situations-là sur Orly, étaient touchés plus particulièrement les jeunes d'origine maghrébine. Donc la situation était dramatique, bien sûr, puisque dans certaines familles, il y avait 2-3 frères ensemble qui usaient de ces produits. Après, par la suite, il y avait des filles aussi qui ont été touchées. Pas mal de filles. Je me souviens qu'il y avait dans des familles des fratries de 5 qui ont été touchées. Donc, c'était dramatique.
Quand on évoque cette question de l'héroïne, il n'y a pas une famille maghrébine chez qui ça ne résonne pas. Voilà. On parle des familles installées en France depuis les années 60. Il suffit d'aborder le sujet pour que les gens vous disent « Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle un oncle, un cousin, voilà, maintenant presque un grand-père. »
Fabrice Olivet.
L'histoire de l'héroïne, c'est l'histoire de la deuxième génération. C'est l'histoire des Arabes. Et c'est ceux-là qui, soit avaient des potes dans les pavillons de banlieue, soit allaient au Kiss Club et dans d'autres boîtes et se sont mis à consommer ces drogues, qui ont en même temps rapporté à l'intérieur de la communauté maghrébine cette idée que, déjà les drogues, bon, il faut le dire, hein, on en prend parce que ça fait du bien, parce que ça soulage, et c'est particulièrement le cas de l'héroïne, hein, c'est quand on dit des opioïdes que c'est des antidouleurs à tous les sens du terme, y compris psychique. Et ensuite, on peut faire de l'argent. On peut faire de l'argent facilement avec une demande qui s'exerçait à l'extérieur des cités. La demande de drogue, elle était aussi dans toute la société française. Et à partir du moment où les cités ont été investies par cette consommation et ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans un milieu extrêmement précaire, extrêmement vulnérable, s'est mis en place ce qu'on appelle le business. Un business qui n'existait absolument pas avant l'héroïne. Avant l'héroïne, dans les quartiers populaires, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de business. Donc c'est des réseaux communautaires aussi, c'est des réseaux ethniques. Alors, quand je dis ça, il faut surtout pas entendre ce que les gens racistes ont envie d'entendre, c'est-à-dire, ah bah oui, vous voyez bien que c'est des Arabes. Non, c'est qu'il y a, encore une fois, une demande avec de l'argent, et qu'à cette demande correspond une offre. Et l'offre, elle se structure autour de gens qui sont souvent des gens vulnérables économiquement, et qui préfèrent fonctionner en réseau avec des gens en qui ils ont confiance. Et c'est plutôt les gens de leur communauté. Bon, quand il y a eu la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? On a inventé la mafia. Donc, voilà, on n'a rien inventé. Et effectivement, pour l'héroïne, il y a des structures qui ressemblent à ça. Il y avait un deal tunisien qui se faisait notamment dans les cafés kabyles, parce que y avait tout un réseau de cafés tenus par des kabyles qui a un peu disparu aujourd'hui, et où les gens proposaient ce produit. Mais ça aussi, ça a participé, à mon avis, à la diffusion de l'héroïne, y compris dans la communauté maghrébine, hein, parce que cette loi qui a été votée dans les années 80 pour condamner les vendeurs usagers, c'était précisément en pensant à ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui se sont mis à vendre de l'héroïne et qui se sont mis à en consommer aussi, et qui ont basculé dans un circuit de dépendance.
La catastrophe invisible, en fait, c'est que c'était pas uniquement sur Orly. C'est-à-dire, on s'est aperçu que dans toutes les banlieues, dans tous les quartiers populaires, il y avait plein de jeunes qui décédaient. On a deux villes limitrophes choisies.
Azzedine Zorbi.
Il y avait un quartier qui s'appelle Jacques Cartier. Il y avait Vitry, où aussi il y avait beaucoup de jeunes qui étaient décédés. Il y avait Bonneuil, il y avait Champigny. Et puis plus loin, le quartier du Mirail à Toulouse, les quartiers nord, il y avait plein de quartiers qui étaient touchés. Et après, petit à petit, on a su que dans tous ces quartiers, il y avait des milliers de jeunes qui étaient décédés, qui étaient consommateurs, qui étaient usagers de drogue, etc. On l'a appelé la catastrophe invisible parce que personne n'a rien vu. On n'a pas tout de suite pris les devants pour éviter effectivement cette propagation de l'héroïne dans tous les quartiers populaires.
Septembre 82, j'ai décollé pour 24 mois. Je suis parti 24 mois et je suis revenu. Et là, en l'espace de 24 mois, c'est...
Qu'est-ce qui s'est passé en votre absence?
Ils en ont abusé, hein. Ils en ont abusé. Moi, il y en a, je les ai pas reconnus.
Rabat, habitant de Nanterre.
C'est triste à dire, hein, mais c'était des loques, c'était des cadavres. Ça piquait du nez dans des états par terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis parti sniffer l'héroïne, mais je savais pas. Entre-temps, ils sont passés à l'injection en 24 mois. Mais moi, j'étais pas là. J'étais loin, j'avais pas de nouvelles, j'avais rien. Et voilà, on les découvre 24 mois après, dont mon frère aussi, hein, Larmo. Catastrophe, catastrophe.
J'ai grandi à Montfermeil, donc dans la cité des Bosquets, où mes parents sont arrivés, après avoir vécu dans les bidonvilles de Nanterre, on a atterri chez de la famille à Montfermeil et on a fini par habiter dans la cité des Bosquets.
Mohamed Meshmash, acteur associatif, Montfermeil.
J'ai juste vu une génération de jeunes immigrés qui voulait croquer la vie à pleines dents, qui travaillait, qui attendait que le vendredi soir pour pouvoir sortir en boîte. Donc c'était l'ambiance où on les voyait tous en train de faire des brochines, aller chercher la veste du copain parce qu'il ne sortait pas, ou la paire de chaussures. On voyait une jeunesse qui n'avait qu'une envie, c'était de vivre. Et on sentait de la solidarité. Et il y avait un socle familial très fort. C'est-à-dire le côté famille était bien présente et ainsi de suite, quoi. On avait des gens qui étaient très politisés, qui comprenaient un peu mieux les enjeux de la société et qui militaient et s'investissaient justement pour la justice sociale. Et puis, malheureusement, toute cette jeunesse a vu arriver la CAM dans les quartiers, qui a été un désastre, qui a été douloureux. Énormément de familles ont fini non plus par s'inviter les uns et les autres, ont fini par s'éviter, où les cambriolages explosaient, où les familles s'accusaient les uns les autres de dire que c'est le fils à un tel qui a entraîné son fils dans la drogue. C'était les années où les gens ne pouvaient plus partir en vacances parce qu'ils avaient même peur de laisser l'appartement à leurs propres enfants parce qu'ils avaient peur que leurs enfants les volent, ce qui arrivait aussi, hein, pour aller chercher la CAM. On a vu des personnes qui étaient très beaux, très magnifiques, devenir, excusez-moi du terme, des loques. Ils prenaient même plus soin d'eux et on avait l'impression de voir quelques zombies traîner dans le quartier, quoi. Et ça, ça a été marquant aussi, enfin dans ma vie, parce que moi, j'ai grandi avec tout ça. Je me suis retrouvé, moi, par le biais de personnes plus grandes que je connaissais qui me demandaient si je pouvais pas faire un garrot, parce qu'ils avaient besoin de se shooter. Et malheureusement, je me suis retrouvé à le faire, quoi. On comprenant même pas pourquoi je le faisais, mais la personne était tellement en détresse que... Il avait besoin de son shoot. On a vu nos sœurs, tellement belles, magnifiques. Et c'est pareil, je veux dire, à l'époque, c'était assez compliqué pour eux, mais elles ne demandaient qu'une chose, c'était de vivre. Et on les a vues aussi tomber dans la CAM. Certaines aussi dans la prostitution, parce qu'il fallait aussi absolument pouvoir se fournir son shoot. Et toute cette génération qu'on prenait comme exemple, elle nous a renvoyé à la figure ce que cette drogue était capable de faire.
Je fais rien, je traîne. Quand je galère, je vole, je cale, je vole à l'étalage, je fais n'importe quoi. Je vole. Pour la CAM. Pour la CAM et pour manger, pour vivre, quoi, un peu. Mais c'est surtout pour la CAM. Là, en ce moment, je suis à 7 fixes par jour.
T'as pas l'impression que tu es en train de te suicider, là ?
Si, je sais. Je suis en train de...
Et alors ?
Je me dégrade petit à petit, là. Je le sais, mais... Si on veut pas de moi, on veut pas de moi. Alors je préfère en finir comme ça et je me dégrade petit à petit, c'est tout.
Mais qui veut pas de toi ?
Tout le monde, ni ma famille, ni personne. Personne veut de moi. J'ai pas d'amis, je suis toute seule, j'ai personne.
Comment dans la vie, dans la cité, c'était géré par les familles, par les voisins, le fait que des garçons, principalement, mais il y avait aussi des filles, oui, consommaient de l'héroïne ?
Ils ne connaissaient pas. Les parents, ils n'ont pas été à l'école, pour la majorité. Hein. Ils étaient dépassés, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'y arrivaient pas, donc de temps en temps, ils attrapaient le gamin, ils le massacraient un peu. Parce que l'addiction, le manque, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Voilà. Et pas que les parents, même pour beaucoup, hein, après, même pour les frères, les sœurs, moi j'ai vu quand j'étais à l'école, hein, qui auraient pu essayer de... Bien qu'on n'avait pas les infos qu'on a aujourd'hui, non, qui les massacraient. Hein. Voilà, ça se battait dans les familles, ça... ils arrivaient au point de piquer les bijoux des parents, de la maman, pour aller les vendre, pouvoir se procurer de la drogue. Pour en arriver là, quand même, c'est... Mais c'est pas pour ça que la mère détestait son gamin. Elle savait très bien, ça restait son gamin. Mais très souvent, c'était l'or, c'était la dot. Hein. Et quand le papa est rentré et puis il n'y avait plus la dot, et ben, il n'y avait plus la maman. Des fois, c'était le divorce. Des fois, beaucoup de pères de famille aussi, hein, qui ont abandonné leur famille, qui sont repartis, hein, que je connais aussi, qui sont partis. Hein. Ils en ont eu marre. Voilà, ils ont tout lâché, ils sont partis. Beaucoup sont rentrés au Maghreb là-bas, ils ont refait leur vie. Et puis voilà.
Et vous, dans votre propre famille, comment ça a été géré la situation de votre frère ?
Moi, je suis arrivé, il était déjà dedans. Il était déjà dedans. Entre-temps, il est passé. Hein. Héroïne, injection et tout. Et... On faisait avec. On essayait de... On savait très bien. Hein. On lui parlait, on essayait, hein, c'est tout. Bon, il n'y avait pas de violence. Hein. On essayait, mais ça ne marchait pas, quoi. Que des promesses, il partait, il allait voler, cambrioler, bah oui, c'est voilà.
Quand vous revenez, vous vous souvenez des premiers cas de décès, d'overdose, quand ça commence à aussi être une épidémie mortelle ?
Oui, oui, oui. Oui, ça choque, hein, les premiers, bah voilà, l'autre il a décédé là, l'autre il... Bien sûr, ça fait de la peine. Mais Après, il y en avait tout le temps. Il y en avait de plus en plus. Il y en avait de plus en plus. Et puis, on s'est habitué, on ne peut pas dire ça. Hein. Mais c'est presque normal, ça aussi. Alors, hier, on a retrouvé un truc dans les escaliers, un tel, dans le local poubelle, l'autre dans la voiture. Tout le monde a été touché. Nous, on a perdu. La famille Mouba, ils ont perdu 6 gosses, 6 gamins, 5 garçons, 1 fille.
Sur combien d'enfants ?
Il en reste 2. Il reste un garçon et 1 fille. Sur 8. 8 gosses.
Comment vous avez appris le décès de votre frère ?
Alors, on était 7 frères. 7 garçons et 4 filles. Ben, moi, j'étais chez moi, je dormais, hein, je pense. C'était tard. Un de mes frères qui était dehors, en groupe avec ses potes et tout. Et une voiture de flic, de patrouille, hein, une voiture de police qui patrouille dans les cités, qui est arrivée, qui a baissé la vitre et qui a dit à mon frère, tiens, on a trouvé ton frère, il est crevé dans les escaliers. Dans la nuit. Bon. Et donc voilà, bon, mon frère n'a pas fait attention parce que ce flic, il était très connu à Nanterre. Il a fait beaucoup de mal. Hein. Aujourd'hui, les anciens s'en souviennent encore. Il a fait beaucoup de mal. Voilà, le lendemain, vers 10h, je crois, ils sont venus en frapper à la porte. Ma mère était au marché. Ils sont rentrés, ils ont fouillé. Ils fouillent sa chambre. Et en partant, ben, il est décédé cette nuit, hein, ils ont dit. Puis voilà, en fait, c'était vrai, quoi. C'était vrai. Ils l'ont retrouvé dans les escaliers.
C'est moche, voilà, c'est très moche. Ça a explosé le socle familial. Ça a été une déchirure, parce qu'à l'époque, on était des grandes fratries. Hein. Dans chaque famille, il fallait compter au moins 7, 8 enfants, voire 10. Et donc, il y avait ceux qui ont réussi à échapper, puis ceux qui, malheureusement, sont tombés. Et donc, c'était compliqué dans les familles quand vous voyez des scènes où votre fils vient à la maison, vous réclame de l'argent. Vous dites non, t'en auras pas, parce qu'on sait très bien ce que tu vas en faire. Que tellement il est dans la souffrance et la douleur, il en pleure. Donc c'est violent. Vous voyez en face la personne qui finit par céder en lui disant tiens, reviens plus, laisse-moi tranquille. Vous avez le grand frère ou le petit frère qui se prenait la tête avec le père ou la mère pour dire non, non, faut pas. Qui mettait son propre frère dehors pour lui dire tu reviens pas. Tu y changeais les clés des verrous. Pour qu'ils puissent plus rentrer et que ce soit chez des garçons ou des filles, c'était pareil quoi, je veux dire. C'était des gens qui finissaient par dormir dans des voitures parce que on les avait jetés de la maison parce qu'on leur disait c'est plus possible. Tu peux pas rentrer dans ma maison, tu peux pas me voler, tu peux pas me faire ça quoi. Cette violence-là, elle a été marquante pour tout le monde. Je vous ai dit, il y a des gens qui étaient parents et qui on en a pris un coup, quoi. Et qui ont totalement, psychologiquement, même pété des câbles. C'était pas beau à voir, quoi. Je dis ça parce que je l'ai vécu dans ma propre famille, quoi. Mes oncles, qui ont touché à ça, j'en avais un qui avait commencé, l'autre qui ne touchait pas et qui était tout le temps en train de le traiter de sale camé. Allez, c'est bon, t'as rien à faire ici, dégage. Et puis, ma grand-mère qui, paix en son âme, s'interposait pour éviter qu'ils en arrivent aux mains. Et nous, on était... très jeune, donc on était juste spectateurs de ces disputes. Mais il y avait une vraie souffrance, quoi. Une vraie souffrance parce que ma grand-mère a pris 10 ans en l'espace de 2 ans, quoi.
Est-ce qu'il y avait de la solidarité ou est-ce que vous avez pu constater de la solidarité entre les familles qui avaient un enfant qui consommait ? C'est-à-dire, quel était le lien entre les familles où, pour le coup, ils avaient des cas de figure similaires dans leurs enfants, quoi.
Souvent, c'était une telle souffrance, une telle honte, une telle... que ça restait comme ça dans la famille. Et même dans les discussions des jeunes dans les cités, on ne parlait pas des problèmes de famille, on ne parlait pas des conflits.
Nelly Boulanger, actrice associative, Blanc-Mesnil.
Les familles échangeaient peu sur cette question-là parce que c'était douloureux.
Dans votre cité, il y avait 3 blocs. Au 3e bloc, il y avait des personnes qui consommaient de l'héroïne. Personne n'y allait, quoi. Vous n'y alliez pas. Pourquoi ?
Mais parce que on savait, c'était une famille, hein. Il y avait plusieurs frères. Et on savait que c'était dangereux. On pouvait se faire dépouiller. On pouvait se faire voler son sac. Il y a des femmes, elles sortaient avec un espèce de sac en plastique pour mettre leur porte-monnaie parce qu'elles s'étaient déjà fait arracher leur sac. On avait cette conscience. Quand on habitait dans une cité, on savait qui on pouvait fréquenter et qui on ne pouvait pas fréquenter.
On a fait des casses comme ça pour avoir la coupe. Quoi.
Tu passais quoi?
Dans les pharmacies.
T'as passé des pharmacies?
Ouais.
Combien de pharmacies?
Je sais pas, je vais peut-être casser une vingtaine.
Plus on en avait, on en voulait, à chaque fois qu'il nous en manquait, on en voulait d'autres, et puis on a trouvé assez facile comme ça.
Moi, on s'est fait choper un casse à Poteau de Mer. Enfin, on avait fait un casse, bon, sinon un mec nous avait vu, tout, il a signé la bagnole. On s'est fait arrêter comme nous.
Consommer de l'héroïne, c'était extraordinairement exigeant financièrement. C'est-à-dire que ça coûtait très cher. Il fallait chaque jour se procurer des sommes d'argent extrêmement importantes. Et ça a entraîné toutes sortes de stratégies pour trouver de l'argent.
Au-delà Lande, ethnologue.
Donc il y a eu beaucoup de délinquance, beaucoup de vols, de vols dans les magasins, de vols de cambriolage, de vols à la tire. Donc ça a été une période qui a été très marquée en fait par ces faits de délinquance, la publicité faite à ces faits de délinquance, dont on savait que ça pesait sur des quartiers entiers, ça pesait sur les familles. Et puis, on a tous aussi connu des gens qui étaient accros à l'héroïne, qui avaient besoin d'argent tout le temps et qui empruntaient. Enfin, moi, je travaillais à l'époque dans une bibliothèque, il y avait un collègue qui était accro à l'héroïne, qui empruntait sans cesse, qui piquait de l'argent dans les sacs des collègues s'il le fallait. De temps en temps, on a même vu parfois arriver la police pour venir le chercher. Donc en fait, c'était présent, ça pesait. Et dans les familles, c'était un poids, une pression extraordinaire. Et évidemment, ben, le prétexte des fâcheries, des violences intrafamiliales, des exclusions, enfin c'était extrêmement prégnant et extrêmement difficile, extrêmement violent pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était des familles entières qui subissaient la violence en fait des effets de ce marché, et c'était aussi des quartiers entiers. Pour certains quartiers, c'était le quartier entier qui était exposé à cette pression-là. Donc oui, ça a été extrêmement lourd.
Ça vient de Fresnes. Oh, écoute. Hein.
Azedine Zorbi.
Monsieur le préfet.
Orly.
Sollicité devant un recours tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion date du 12 juin 1987 et qui m'a été notifié à Fleury-Mérogis. Donc on a réussi à le sortir, lui. C'est un Tunisien. Faisal Izani. Cher monsieur Azedine. Je vous écris pour vous dire que je me trouve en prison, celle de Fresnes. J'ai fait un cambriolage et ils m'ont mis en prison en attendant que je sois... Donc tous les jeunes qui faisaient des cambriolages, c'était des cambriolages de nécessité. C'est-à-dire ils allaient casser des pharmacies, ils volaient des produits ou ils volaient des télés, des machins pour revendre, pour acheter leur dose. Ça c'est Slimane, voilà. Slimane c'est celui vraiment que j'ai accompagné énormément, et ça s'est soldé quand même par un échec. Voilà, donc il dit, j'ai reçu ton mandat, mais en attendant, il a fallu... Là, il était en poste de cure, à côté de Rennes. Il avait une sœur qui s'occupait de lui. Leur mère était décédée, le père, il est parti en Algérie depuis des années et des années. Et c'était leur sœur aînée qui s'occupait d'eux. Donc, voilà, Slimane. C'est un souvenir qui m'a hanté, qui m'a poursuivi, parce que la première fois que j'ai eu un contact avec un toxicomane, c'était avec Slimane. Dès mon embauche, même pas un mois, deux mois après, on m'a dit, bon, Azdine, est-ce que tu peux t'occuper de Slimane? Peut-être qu'il y aura une accroche. Voilà, et donc j'ai accepté, et puis il est venu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il m'a identifié comme étant le père de substitution ou de, Et moi aussi, je voyais qu'il avait cette volonté de s'en sortir. Donc, il fallait absolument aller vite. Parce qu'il y avait un environnement qui pouvait le récupérer très vite, c'est-à-dire ses copains, dans le quartier. Et puis, il y avait cette possibilité de le sortir de là en essayant de trouver des lieux qui pouvaient l'accueillir. Et ça a duré plus d'un an et demi, jusqu'au jour où, enfin, il a eu une place pour un sevrage. Et juste après le sevrage, on a trouvé une place pour aller faire une post-cure. Et puis, on a trouvé un beau jour, je ne sais pas, c'était à Strasbourg peut-être. Et donc là, Slimane a pu passer 3 ou 4 mois. Il avait repris du poids, il s'est épanoui, il faisait de la muscu. Et puis tout de suite, il a enchaîné avec une formation en ébénisterie. C'était extraordinaire. Et puis son contrat est fini et puis il est revenu à Orly. Sauf qu'après, quand il est revenu, c'était le vide. Donc il a erré un petit peu, il a galéré, comme on dit. Et puis il est parti sur Paris. Et sur Paris, donc moi j'avais perdu sa trace, sauf que c'est là où le drame s'est produit. Un beau jour, la police, le commissariat de la Villette m'a appelé pour me dire de venir identifier le corps parce qu'ils avaient trouvé une carte, ma carte, sur lui. Je ne sais pas s'il est tombé dans le canal, si on l'a poussé, s'il dilait des cachets, si... Et en fait, il est resté dans le canal. C'était un hiver où le canal avait gelé. Donc, quand ils l'ont retiré... Voilà, donc, est-ce que j'ai suivi quelqu'un jusqu'au bout? Oui, jusqu'au cimetière d'Orly.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Alors la drogue se diffuse un peu partout dans la société dans les années 70-80 et elle va commencer à s'enraciner dans les banlieues dans les années 80.
Alexandre Marchand.
C'est dans cette décennie assez sécuritaire sur le plan du débat public qu'on va commencer à parler de petits trafics dans les banlieues populaires qui sont rongés par la criminalité et le chômage. C'est à ce moment-là qu'on se met à en parler, même si paradoxalement, on ne sait pas très bien comment ça se passe sur le terrain. On n'a pas vraiment d'observatoire, on n'a pas de chiffres. On parle de la drogue en banlieue, mais aucun maire de banlieue n'accepte de dire qu'il a des toxicomanes chez lui, d'admettre qu'il y a un problème, sauf à Orly, qui est l'un des rares cas particuliers où le maire communiste Gaston Viens, en 83, met en place une commission toxicomanie, fait venir des médecins et des sociologues comme Anne Koppel, qui vont enquêter et qui vont bien dire que oui, il y a de la drogue à Orly, il y a près de 200 jeunes de quartier, ils ne sont pas tous d'origine immigrée, ils sont juste des jeunes des quartiers populaires qui consomment régulièrement de l'héroïne. Et on ne les voit pas, ils sont invisibilisés parce que, à l'époque, le dispositif de soins, il repose sur l'idée que c'est le toxicomane qui doit faire la démarche d'aller dans les centres de soins spécialisés, se faire connaître et puis accepter de rentrer dans un parcours thérapeutique dont la finalité est l'abstinence. Ça n'intéresse pas en fait beaucoup de toxicomanes lourds des années 80 qui ne sont pas incités à démarcher ce système de soins, donc forcément on ne les voit pas et ils sont là invisibles. À Orly, on a cette équipe de sociologues et de médecins qui vont faire sortir de l'invisibilité ces jeunes, mais c'est l'un des rares cas documentés qu'on a, puisque l'initiative de Gaston Viens est isolée. Donc il y a plein d'autres Orly, si j'ose dire ainsi, en France à la même époque, mais on n'a pas les chiffres, on ne sait pas qui consomme précisément, faute d'avoir ces enquêtes de terrain pour aller à la rencontre de ces toxicomanes que l'on présume, hein, mais qu'on ignore tout de l'existence concrète.
L'héroïne était complètement taboue. personne n'en parlait.
Anne Coppel, sociologue.
Du côté des autorités françaises et des politiques, c'était surtout n'en parlons pas. Le moins on en parle, le mieux on se porte. Ça, c'est une citation de Mitterrand qu'une amie m'a rapportée. Et c'est ce qu'ont répété les socialistes tout au long des années 80. Il fallait surtout pas en parler parce que sinon c'était faire le jeu de Le Pen. Parce que Le Pen avait déjà mené une campagne fondamentalement en assimilant toxicomanes, migrants. Mais bon, les premières années, les polices sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'ils connaissent pas les réseaux, parce que les réseaux sont, enfin, c'est complètement anarchiste, en fait. Parce qu'il y avait une multitude de petits réseaux, des gens qui allaient en chercher à Amsterdam, qui en rapportaient. Il faut dire à l'époque que les usagers étaient très souvent trafiquants. Ils revendaient à leurs copains. Ça se faisait, c'était absolument naturel comme façon de procéder. Donc, celui qui consommait, il achetait pour lui et pour ses copains et il revendait ce qu'il ne consommait pas. C'était donc les mêmes. Il n'y avait pas de mafia organisée pour vendre. Et donc, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui se passe dans les cités. Personne ne savait vraiment ce que c'est. Donc, moi, je sais que j'ai travaillé, par exemple, à Orly, parce que Orly a été le seul maire de la banlieue parisienne qui a voulu faire une enquête sur les questions de toxicomanie dans sa ville.
Dans quelle année ?
1985. Et il a mis en place une commission avec tous les acteurs, travailleurs sociaux, animateurs, éducateurs, psychiatres, tous les dispositifs sanitaires et sociaux existants. Et dans cette commission, j'y ai travaillé et déjà on essayait de comprendre combien il y en avait des toxicomanes dans la ville. Il y a eu quand même un bout de réponse.
Et c'est quoi le bout de réponse ?
Le bout de réponse, c'est grâce à Farid Radjou d'ailleurs, à l'époque qui était maire adjoint à la santé à Orly, qui a fait l'enquête qui sont les toxicomanes qui sont connus par tout le monde, que tout le monde connaît. Ça, c'était en 1986. Et 1996, il a repris sa liste et il s'est aperçu que la moitié d'entre eux étaient morts. C'était des jeunes qui avaient 20 ans, 25 ans au plus, quoi. Ça, c'est la meilleure preuve que je connais de l'ampleur de la catastrophe en question.
Merci à Nelly Boulanger, Dynasty, Fabrice Olivet, Alexandre Marchand, Michel Kokoreff, Rabat, Ahmed, Missoum, Azeddine Zorbi, Mohamed Meshmash, Aude Lalande et à Anne Coppel. Prise de son, Éric Audra, Raymond Alboui, Florent Bujon, Thomas Robin et Bruno Mourlan. Mixage, Cédric Chatelus. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vanna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Héroïne, Le temps des seringues. Deuxième épisode, L'arrivée de la cam en banlieue. Un documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisé par Gilles Blanchard. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Thank you.